Cet épisode est une présentation de Chef Maison. Chef Maison, le meilleur traiteur, ça arrive sud de Montréal. Peu importe ta situation familiale ou ton besoin, ben Roger, le propriétaire, a un format pour toi. T'en veux-tu des choix? Familial 5 jours, monoparental 5 jours, individuel 5 jours, format grande famille! Familial, 2 jours. Moniparental, 2 jours. Individuel, 2 jours. Grande famille, 2 jours. Puis là, je t'ai même pas parlé des forfaits lunch à part de ça. T'as juste à appeler au 438-872-9500. Puis mon ami Roger Yangang va se faire un plaisir de bien te servir. Parce qu'oublie pas, pis ça tu le sais, Chef Maison, la solution. Hey, t'es là, toi? Bienvenue dans la Jasette du Barbu, édition 331, épisode 331. Il fait présentement 12 degrés à l'extérieur de nos studios. Brrr. Mais nous avons un temps ressenti de 9 degrés sous la pluie. Brrr. Ouais, c'est gris, c'est pluvieux, c'est orageux, mais on se plaindra pas parce qu'on a eu des sapristi de belles semaines auparavant et du très beau temps. Donc, un peu de pluie, c'est pas grave. Mais là, la chose la plus importante ce matin, puis tu sais, je m'en viens. As-tu fait ton lit ce matin? C'est très important. Tu sais, c'est une micro-réussite. Voilà. T'as pas été sur la planète Mars. Tu travailles pas à NASA. T'opères pas à cœur ouvert. Mais faire son lit le matin, c'est la première réussite de sa journée. C'est une micro-réussite. Et le barbu ici a fait son lit ce matin, contrairement à hier. Oui, si tu suis, dans l'épisode 330, je t'ai dit, je t'ai avoué que j'avais pas fait mon lit. Mais là, ce matin, je suis revenu sur la bonne track, puis j'ai fait mon lit. Pareil comme David Goggins, Joe Rogan, Vitaly Klitschko, Jean-Yves Lavoie et Simon Chartrand. Voilà, on va passer au sujet. Premier sujet de la journée. Ouais, ben, je pensais pas en parler, mais je vais en parler pareil parce que c'est d'actualité. L'essence à 2,25$. 2,25$. Ben, quand est-ce que ça va finir d'augmenter? Et qu'est-ce que Legault attend pour enlever les taxes du carbone ou arrêter la montée du prix de l'essence? Qu'est-ce qu'on attend? Là, on est en train d'achever la classe moyenne. On est en train d'achever la classe moyenne. C'est ça qu'on fait présentement. C'est triste, c'est plate, c'est dur, il y a de l'inflation, tout augmente à l'épicerie. Je veux pas être alarmiste, mais je regarde l'essence monter, puis là, va falloir... J'ai confiance en François Legault, il a bien géré la pandémie, d'après moi. En tout cas, il a fait ce qu'il pouvait, c'était pas évident. Certains gérants de l'estrade vont dire qu'il a été pourri, mais ça, c'est leur opinion. Là, François Legault, je pense que c'est le temps de regarder au niveau de l'essence qu'est-ce qu'on peut y faire. Parce que ça n'a plus de bon sens, là. On va étouffer tout le monde, là. Je regarde juste à l'épicerie les prix, puis on s'entend. L'épicerie, faire son épicerie, c'est pas un luxe, là. C'est juste normal. Mais pour l'instant, c'est difficile. Puis là, rajoute un 2,15$ d'essence. My God, combien que ça va me coûter pour gazer ma
Matrix 2014?
Ça va me coûter cher. Hey, puis là, moi, je m'a donné un exemple. En fin de semaine, j'ai été à Trois-Rivières, OK? Ma fille jouait au baseball à Trois-Rivières. J'ai parti de la Chine parce que j'étais chez ma copine. Je suis descendu à Saint-Jérôme, aller chercher ma fille. On est monté jusqu'à Trois-Rivières. Après, je suis redescendu jusqu'au camping de mon ex à Mirabel pour aller porter ma fille. Ça m'a coûté, en tout et pour tout, 70$ d'essence. C'est beaucoup d'argent, ça, mes amis, pour un pauvre gribouilleur comme moi. Donc, en tout cas, j'ose espérer que François Legault va faire de quoi. Là, on dit, oh, ben, tout le monde faudrait que ça en aille avec des chars électriques. Ouais, mais c'est-tu tout le monde qui a de l'argent pour s'acheter un char électrique? Moi, ma Matrix, là, 2014! J'ai fini de la payer. Je vais attoffer le plus longtemps que je peux, là, tu comprends-tu? Mais après ça, évidemment que je vais penser à aller dans l'électrique, clairement. Je vais y penser sérieusement. Bref, j'ai bien hâte de voir pour la suite des choses. Au cours des prochains jours, on devrait en entendre parler. Probablement qu'on va en savoir plus. Je peux pas croire que notre premier ministre va laisser l'essence à ce prix-là. Ça a juste plus de bon sens. C'est complètement ridicule. Bon, ça c'était la mauvaise nouvelle du podcast. On continue. Dans la catégorie bonne nouvelle, en tout cas pour moi qui est un amateur de gaming, qui est un amateur de jeux, j'ai lu un article dans le Early Game, un webzine, un journal numérique, qui fait état qu'il y aurait un early release de Red Redemption 3. Ouais, la troisième mouture de Rockstar, au lieu de sortir en 2026 comme ça a été indiqué, sortirait en 2025. Bon, tu vas me dire, c'est encore loin. Oui, mais les gens de Rockstar prennent leur temps pour faire des jeux, puis ça devient des bijoux exceptionnels. C'est le cas pour Red Dead Redemption 2. Il va y avoir aussi un remake de Red Dead Redemption, la première mouture, pour les nouvelles consoles. J'ai bien hâte de voir ça. Faut pas oublier non plus GTA 6, Grand Theft Auto numéro 6, qui devrait sortir aussi. Ils veulent faire un remake de GTA, du premier GTA et du premier Red Dead Redemption. Donc, il y a beaucoup de pain sur la planche, mais je m'inquiète pas pour eux. Moi, c'est ma compagnie préférée. Ils travaillent de façon méthodique. Ils sont. Puis ils sortent jamais un jeu quand c'est pas le temps. Exemple, Cyberpunk 2077, qui l'ont échappé à ce niveau-là. Tu verras pas ça avec Rockstar. C'est une compagnie exemplaire à ce niveau. Je voulais t'en parler parce que je trouvais que c'était une bonne nouvelle. Je trouvais. Donc. Là, je t'ai parlé de l'essence, je t'ai parlé de Red Dead Redemption 3. Ah oui, c'est la fin des séries, imagine-toi donc, pour les Frontenacs de Kingston. Et ça, c'est l'équipe de Shane Wright qui est capitaine de cette équipe-là. Puis là, ça commence à dire que Shane Wright n'a pas eu des bonnes séries. On comparait Shane Wright au meilleur de la ligue de toutes les époques. Et qui n'était pas là. Bon. Je pense qu'on cherche des bibittes où ce qu'il n'y en a pas. Évidemment que Shane. Là, on voit l'effet du Canadien de Montréal, c'est-à-dire, on voit très bien comment que le Canadien de Montréal est polarisant. Il y a toutes sortes de choses qui sortent sur Shane Wright. La plupart, ce n'est que des suppositions. Shane Wright, c'est un bon gars qui est passionné par le hockey. C'est un jeune homme qui est à sa place. Mais là, on cherche des bébites. On cherche des bébites. Là, son équipe vient de se faire éliminer, mais on sait très bien que, si vous avez remarqué, là, puis si vous êtes attentif, ça prend pas des Sherlock Holmes quand même, là. J'ai dit son équipe, une équipe. Shane Wright, faudrait aviser tous ceux qui sont pas au courant. Shane Wright fait partie d'une équipe. Il n'est pas le seul joueur de cette équipe-là. Donc, si le Frontenac de Kingston s'est fait éliminer, c'est pas Shane Wright qui s'est fait éliminer, c'est son équipe. Donc, il faut faire attention, là. Moi, j'ai pas vu la série, bien honnêtement. D'autres chats fouettés qui ont regardé des games de la Ligue junior de l'Ontario. Mais je n'ai pas d'intérêt, bien honnêtement. Peut-être que je regarderai la finale, ou j'aime beaucoup la Coupe Memorial. Ça, j'aime bien, bien ça. Le championnat mondial junior, c'est bien le fun, ça aussi. Bon. Mais une série quelconque, quart de finale dans la Ligue de l'Ontario, ça m'intéresse moins. Bref, on fait encore du chichi, des chachas avec Shane Wright. Est-ce que je suis surpris? Non, je t'en ai déjà parlé dans le podcast. Mais je trouve ça juste plate, moche, qu'on envoie de la mauvaise information. On joue avec les chiffres. On envoie ça au fan. Là, le fan, lui, il gobe ça. Puis après ça, lui, il va aller écrire sur Twitter, « Non, faut pas repêcher Shane Wright. » Puis je veux pas me faire le porte-parole de Shane Wright ici. Là. Je fais que dire que le kid a 17 ans. Là. Chill out. C'est juste ça que je dis. Comme j'ai dit auparavant, c'est pas le repêchage de 2023, non. C'est pas Connor Bedard. C'est pas Matvei Mishkov. C'est pas Fantelli. Absolument, c'est pas ça. Probablement qu'il serait repêché quatrième en 2023, Shane Wright. Si tel était le cas, il serait en 2023. Il serait en 2023, il serait repêché quatrième. Ben on est en 2022, on est au repêchage de 2022, puis on a quand même gagné la loterie. Donc, soyons heureux, soyons contents. Puis c'est pas Shane Wright qu'on pêche, c'est peut-être Matthew Savoie, c'est peut-être Logan Cooley. Je sais pas, mais on va avoir un bon choix. Néanmoins, on va avoir un gars avec un certain talent. Bon, moi, je souhaite que ce soit Shane Wright pour plusieurs raisons. J'aime son leadership, il était capitaine de Kingston. On a besoin de leaders dans cette équipe-là du Canadien de Montréal. C'est un centre. Il va pouvoir être le deuxième centre de cette équipe-là pendant bien des années. J'aime le fait qu'il soit bon offensivement et défensivement. J'aime beaucoup ça. Donc, il apporte une certaine profondeur. Ça, moi, je trouve ça très intéressant. Puis on a besoin de ça. C'est un gars qui n'a pas peur de se mettre le nez dans le trafic aussi. Il a une belle grandeur, il a une belle grosseur. Ce qu'on n'a pas au centre. On a un centre digne de ce nom qui s'appelle Nick Suzuki, mais il est petit. Donc, un deuxième petit centre d'une bonne grosseur, ça va faire une différence, d'après moi. Tu peux te faire une belle ligne là, avec à ses côtés Josh Anderson. Là. Ça pourrait être très, très intéressant. Bref, puis peut-être un passeur avec lui là, à droite là, ou à gauche, là, peu importe, là, mais on pourrait commencer à avoir quelque chose d'intéressant là. J'ai hâte de voir Sean Farrell aussi évoluer. Quoique, en défensive, on est correct. On n'a pas besoin de toucher à ça, je veux dire, au niveau du repêchage, là, puis des acquisitions. Défensive, on est correct. Au niveau des gardiens de but, c'est à voir. Il y a des choses à faire là. Mais notre point le plus faible, présentement, au niveau du depth chart, de la profondeur de cette équipe-là, je parle tant junior, pro mineur, universitaire, je parle de tout ce qui est prospect plus ce qu'on a présentement en main. On est très faible au niveau offensif. C'est pas grandiose ce qu'on a là. Je veux dire, les bons joueurs offensifs présents. Disons qu'on repêche Shane Wright. Bon ben, les gros potentiels, là, ben il y a Nick Suzuki, Cole Caulfield, Sean Farrell, Shane Wright. Après ça, c'est des coups de dés là. Joshua Roy, je l'aime beaucoup, mais c'est un coup de dés. Puis le reste aussi là. Harvey Pinard, ça va être un gars de bottom six là. Je veux dire. Troisième ou quatrième ligne. Je l'aime beaucoup, là, mais ça sera pas plus que ça. Top 2, là, des deux premières lignes, il n'y en a pas beaucoup. Là. Je viens de les nommer. Là. Sean Farrell, Cole Caulfield, Nick Suzuki, Shane Wright. C'est à peu près ça. Peut-être by Josh Anderson, mais je veux dire, préférable, c'est la troisième ligne, Josh. D'après moi. Même si je l'aime bien, bien gros, là, mais... Deuxième ligne, peut-être, mais avec deux gars hyper talentueux, là, que pour lui, puis lui, tu le mets en avant du net sur le power play, là, peut-être que ça pourrait être payant. Bref, c'est pas mal ça. Sur ce, on va faire une pause. Tu vas entendre un magnifique jingle d'un groupe qui s'appelle The Crooked Mind. Je veux remercier mon ami Guy Léonard et le chanteur à la voix d'or, Carl Boucher. Puis je vous reviens après ce 30 secondes.
Barbu de ville! Ben oui, la grosse barbe qui raconte des histoires.
De retour après ce magnifique jingle, cette petite pause de 30 secondes, gracieuseté du groupe The Crooked Mind. Vous pouvez les joindre sur leur page Facebook. Prochain sujet. Là, ça va voler haut en tabarnouche. L'île de l'amour à TVA. Oui, mesdames et messieurs, l'île de l'amour à TVA. Qui est rendue à ta deuxième saison. Imagine-toi donc, c'est peut-être moi qui vis sur une autre planète. Je viens de découvrir ça. Ben, découvrir étant un grand mot. Non, mais ça s'adresse à qui, ça? Pourquoi? C'est ma seule question. Pourquoi? Puis à qui ça s'adresse? Ben, y en a-tu beaucoup des shows d'influenceurs, d'influenceuses, du monde qui se promène en bikini sur Instagram? C'est-tu ça notre société de demain? C'est-tu moi qui ai dépassé? Tu vas me le dire, tu peux m'écrire au barbudeville@commercial.gmail.com. Peut-être que tu vas me dire « Hey, le barbu, t'es dépassé, puis je vais l'accepter. » C'est-tu moi qui ai dépassé? C'est-tu moi qui est à côté de la traque? Trouvez-vous ça épais vous aussi? C'est n'importe quoi. C'est comme un spin-off d'Occupation Double. Dans le fond, là, j'ai vu des extraits hier, parce que c'est bien rare, là, mais hier, j'ai regardé Les Chefs en direct, où j'aime bien gros cette émission-là. Puis après ça, j'ai tourné ça à TVA 2 minutes, puis j'ai vu que ça jouait, L'île de l'amour, ou je sais pas trop, là. Je trouvais ça complètement ridicule. C'est une canisse vide. C'est complètement vide. Ben, c'est correct, des fois, des émissions qui nous aident à décrocher. J'ai rien contre ça. C'est le propre de ce genre d'émission-là qui nous fait décrocher, qui nous amène ailleurs, qui nous fait oublier nos petits tracas du quotidien. J'ai pas de problème avec ça. Mais ça, je veux dire, l'île de l'amour, là, on a atteint un niveau de bassesse là, comme jamais vu. En tout cas, à mon avis, là. Ça, c'est pour qui, ça, ce genre d'émission-là? À qui ça s'adresse? Au même genre de personnes qui font cette émission-là? Je veux dire, ça s'adresse à ceux qui veulent être des influenceurs, des influenceuses? Ça s'adresse à eux? Ça s'adresse aux douchebags? Je me pose la question, sérieusement. Je me le demande. À qui ça s'adresse cette émission-là. Bref, tu peux m'écrire en commentaire, là, tu sais, là, sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Sinon, tu peux m'écrire sur mon courriel, puis tu peux me donner ton commentaire face à ça. Ça va me faire, ou sur le Patreon aussi, là, ça va me faire plaisir. Autre sujet, les tweet fights. Non, mais y a-tu quelque chose de plus insipide qu'un tweet fight? Puis juste le mot tweet fight, appelle ça autrement. C'est gênant pour le mot fight, qui est combat. C'est gênant pour les gars qui font du MMA, les gars qui font de la boxe, de la lutte. C'est gênant, là. De dire tweet fight. Là, il y en a eu un que j'ai vu avec Patricia, la conjointe de Marteau Napoli. Attends, c'était avec qui qu'elle a eu un tweet fight donc? J'ai vu ça. Excuse-moi, ça sera pas long. Bon. Oui, c'est ça. Puis, je sais pas pourquoi, out of the blue, le journaliste sportif Richard Labbé a commencé à s'astiner avec Patricia en disant « Déjà une solide candidate pour le palmarès de la semaine en taguant Fred Bourget. » Tu vois? Je la comprends pas trop, celle-là. Tu vois, elle a donné son opinion en disant qu'elle était contente de ne plus porter de masque dans les épiceries et un peu partout. Je vois pas ce qu'il y a de mal là-dedans. Elle a le droit d'être contente. Je n'ai pas compris tout à fait. Ben, ce que je veux dire, Twitter, c'est devenu un panier de crabes. Twitter, une boîte à Pandore. Twitter, c'est devenu désagréable. Puis là, on attend juste le prochain scandale. Les gens attendent juste sur Twitter le prochain scandale pour ramasser cette personne. Il y a beaucoup de jugements. Il y a beaucoup de monde qui casse du sucre sur le dos des autres. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué là, depuis un certain temps. Là, je te dirais, il y a une séparation sur Twitter là, entre les masques et les anti-masques là, depuis le début de la pandémie. Peut-être 6 mois dans la pandémie. Puis depuis ce temps-là, c'est juste ça. On pourrait-tu passer à d'autres choses au lieu de se casser du sucre sur le dos? On peut-tu être un peu plus communautaire, être un peu plus se soutenir à la place? Pendant ce temps-là, l'essence, elle monte, puis personne ne dit rien. Ben non, parce qu'on est divisé. Donc, ils ont beau jeu. J'extrapole là, quand je dis ça. Mais là, je pense aux gars qui ont des camions, puis qui font pas du highway, là, qui font du commercial, mais ici au Québec, au Canada, là, hey, ça coûte cher, c'est un méchant temps. Puis ça va avoir une répercussion dans les épiceries, parce que c'est des trucks qui ramènent la bouffe. Ça va avoir des répercussions à l'épicerie, ça va avoir des répercussions à la pompe, dans notre portefeuille, dans notre quotidien. Il faut être conscient de ça. Bref, tu vois comment ça m'intéresse, les tweet fights, j'ai sauté sur un autre sujet. Bref, c'est complètement inutile. Et puis, on n'a pas besoin de ça, là, des tweet fights entre les vedettes. Là. On n'a pas besoin de ça. Ben là, je dis vedette. Richard Labbé, c'est un journaliste, pas une vedette. Patricia, animatrice radio, qui a travaillé avec Dupont, qui a travaillé à Radio X, qui a travaillé à Énergie, qui a fait le tour puis qui connaît le tabac. C'est quelqu'un que je respecte énormément. C'est quelqu'un qui a pas les deux doigts dans le nez. C'est une femme d'affaires. Puis je la respecte pour ça. Bref, c'était mon opinion, ces tweet fights. C'est comme assez inutile, si tu veux, mon avis. Prochain sujet et le dernier de la journée. Je sais pas si tu connais l'humoriste Faf, qui vient de la Beauce, qui reste à Québec. Il a fait un Billy Buffer podcast avec Yann Theriault la semaine passée d'à peu près 2h15. Il jasait de tout et de rien. Il jasait de sa carrière aussi. Puis là, j'ai appris, imagine-toi donc, il a slacké l'humour. Il a encore sa soirée d'humour une fois semaine à Québec ou en Beauce, je sais plus. Et puis, Faf a slacké l'humour parce qu'il travaille 40 heures semaine. J'en revenais pas. Il y a un autre travail. Moi, je pensais qu'il vivait de ça. Tu vois, puis il dit que la pandémie a été difficile. Tu vois que c'est pas facile pour personne. Puis il n'y a personne qui a dit que ce serait facile. Mais présentement, c'est pas facile pour personne. Puis, ben là, on a un autre exemple avec Faf qui travaille 40 heures semaine. Donc, pour lui, de faire des spectacles, ainsi de suite, c'est difficile là, d'assembler les deux. C'est quand même beaucoup de temps, là, on va se le dire. Là. C'est beaucoup d'ouvrages. Mais j'étais surpris d'entendre ça. Vraiment. Et puis il était bien honnête. Hein. Il dit non, il dit présentement, je travaille 40 heures semaine, puis j'essaye de faire mon possible avec le reste. Mais il dit qu'il y a de la difficulté là, à faire les deux, mais c'est comprenable. Là. C'est qui peut faire les deux de même facilement? Puis non, c'est pas comme ça que ça marche. Là. C'est beaucoup d'énergie et c'est beaucoup de temps. Mais bref, c'est quelqu'un que... Je peux pas dire que je suis un grand fan de Faf. Tu sais, les one-liners, oui, mais je peux pas dire que je suis un grand fan, mais je respecte son travail, par contre. Puis ce qu'il faisait comme humour, c'est sûr que c'est grinçant, c'est hardcore. Donc, il y a quelque chose là à... Pour lui, là, il y avait quelque chose là à défricher dans sa façon de faire. C'est une coche au-dessus de Mike Ward, là, je veux dire, au niveau du grinçant puis du hardcore. Là. Moi, c'est juste que le one-liner, c'est pas son humour tant qu'il, moi, vient pas me chercher. C'est plutôt le one-liner. C'est quelque chose qui, moi, je trouve, c'est saccadé puis ça manque de rythme. J'aime un show d'humour qui a du rythme. C'est comme une musique, c'est comme une chanson. Tandis que lui, ce qu'il fait, c'est une ligne, un punch, une ligne, un punch, une ligne, un punch. J'ai l'impression de Quand j'écoute un gars qui fait du one-liner, j'ai l'impression d'entendre un gars, une fille qui est dans une shop, là. Une ligne, un punch. Une ligne, un punch. Tu comprends ce que je veux dire? Comme une machine. Puis, pour moi, il n'y a pas d'émotion là, donc moins intéressant. Puis, je trouve que le one-liner, c'est à tout prix d'aller chercher la meilleure ligne possible tout le temps. Moi quand je regarde ce genre d'humour, ça m'essouffle. C'est peut-être juste moi, mais c'est la façon que je vois ça. Mais c'est pas son genre d'humour, ça me dérange pas. Il est grinçant, mais c'est correct, ça. Moi, je suis capable de certainement d'en prendre, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais sinon, bonne entrevue, va voir ça, ben le fun. Avec Yann, les gars, ils ont travaillé ensemble déjà. Fait que bien intéressant. Hey, dernier sujet. Ken Hughes puis Vincent Lacavalier seraient présentement en Floride, en Finlande. Ben là, on sait qu'il y a un jeune joueur sont allés observer. Ah oui, c'est ça. Ils ont été voir Logan Cooley en Allemagne, dans le U18. Ils ont été voir Jura Slavavoski, Simon Nemec et David Jiříšek dans leur ligue respective. Fait que les gars font leur devoir. Intéressant. J'ai hâte de voir ce qui va en sortir. Néanmoins, je pense toujours que le Canadien va repêcher Shane Wright. Mais, sais-tu quoi, même si c'est état-major, je serais pas surpris. Le Canadien nous a déjà surpris. Souviens-toi l'année de Kotkaniemi, on pensait bien que ça aurait été Brady Tkachuk. Ben non, ils ont pris le Finlandais, puis on connaît la suite des choses. Je serais pas surpris qu'ils repêchent quelqu'un d'autre que Shane Wright, finalement. Bref, hey, c'était ta Josette du Barbu, épisode 331. Sur ce, je m'en vais te souhaiter, même malgré ce mardi pluvieux, je m'en vais te souhaiter le plus beau mardi de ta vie. La pompe à bière à Mirabel, ta station-service et dépanneur spécialisé en bière de micro-brasserie. Situé à Saint-Canute, sur l'autoroute 158. Pour information, 450-412-4747. Puis si t'es chanceux, tu risques d'y rencontrer ton barbu de ville en train de choisir sa bière pour la soirée. Oublie pas, en plus, on a des tirages à chaque mercredi. La pompe à bière, c'est un rendez-vous. Tu veux du swag? T'es sérieux à propos de ta barbe? Tu veux une coupe de cheveux dans le vent? Ben j'ai le spot pour toi et tes enfants. Alex le Barbier. C'est facile, tu peux réserver en ligne alexlebarbier.ca ou tu peux appeler directement au 450-602-7022.